Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Judaïka. Bienvenue dans l'émission Kol Hillel, proposée par la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel. Gaël, bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Vous êtes membre du conseil d'administration de la communauté israélite libérale de Belgique. Nous allons ensemble animer cette émission tous les 15 jours. Prête pour cette grande aventure ?
Prête pour cette grande aventure qui, je l'espère, vous permettra, amis auditeurs qui ne nous connaissez peut-être pas encore, de vous faire une idée de comment nous vivons notre judaïsme.
Le judaïsme libéral s'oppose au rôle traditionnellement dévolu à la femme juive, reléguée à l'arrière ou à l'étage des synagogues, où elle est cachée au regard des hommes et exclue du rite synagogal. Mais le judaïsme libéral ne se contente pas d'autoriser le mélange des genres à la synagogue. Il prône l'égalité religieuse entre hommes et femmes, considérant chacun et chacune comme des êtres responsables, tant face à l'autre que face au divin. Pour nous en parler, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui le rabbin Marc Neger. Rabbi Neger, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Gaël, bonjour chers auditeurs.
Au moment de préparer cette première émission, vous avez exprimé le souhait qu'elle soit consacrée à la femme. Pourquoi ?
Le judaïsme libéral est né il y a environ 2 siècles de l'émancipation des Juifs. Les Juifs sont devenus à part entière des citoyens dans les États où nous vivons. Et très vite, la question de la place de la femme à la fois dans nos sociétés et dans la synagogue est devenue une question importante. Je pense que aujourd'hui, il est nécessaire d'affirmer clairement nos positions. Et puis ce qui se passe, c'est que le judaïsme ultra-orthodoxe et d'autres formes de fondamentalisme ont finalement fait de leur cheval de bataille l'idée qu'ils devaient rendre la femme relativement invisible dans l'espace public. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de réaffirmer nos valeurs.
Dans le chauffard du mois de décembre dernier, pour ceux de nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est le chauffard, il s'agit de la revue mensuelle qui est éditée par la synagogue Beit Hillel. Donc, dans le chauffard du mois dernier, Rabbi Neger, vous écrivez ceci. Si l'on souhaite étudier la position et le rôle de la femme dans la tradition juive, il faut commencer par se pencher sur ce qu'est la définition d'une femme pour le judaïsme. Parler de la définition d'une femme dans le judaïsme, qu'entendez-vous par là ?
Il y a d'abord effectivement une évidence biologique sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais il y a également l'idée de ce qu'est une femme au niveau social, et je crois que nous devons prendre en compte ce que les penseurs féministes comme Simone de Beauvoir nous ont appris depuis un certain nombre d'années, ou même Judith Butler. La femme est avant tout la place qu'on lui donne dans la société. Et finalement, les rabbins ont déjà une certaine compréhension de cette idée-là. Et c'est pour ça que dans le Talmud, on associe régulièrement la femme aux mineurs, à l'esclave, à toutes les catégories de ceux qui n'ont pas exactement les mêmes droits que la personne normative qui est un homme libre.
Oui, en fait, ce que vous voulez dire par là, c'est que dans la tradition rabbinique, en fait, la femme est essentiellement identifiée par rapport à son rôle social. Vous allez même plus loin lorsque vous écrivez que la raison même de la création de la femme est fondamentalement sociale et non procréatrice ou sexuelle.
Oui, on trouve ça dans la Torah. Quand Dieu annonce qu'il va créer pour l'être humain un partenaire, il dit « il n'est pas bon pour l'être humain, pour Adam, de vivre seul ». Et ce qui apparaît en premier, c'est l'altérité, c'est la possibilité d'un être humain de parler avec un autre être humain. Et au-delà de la première aventure d'Adam et Ève avec la première transgression, la sexualité apparaît d'abord et la procréation n'apparaît qu'après. C'est seulement au moment où Adam et Ève sont chassés du Gan Eden que l'idée de procréation apparaît, alors que la sexualité a déjà fait son apparition quelque temps avant.
Et lorsqu'on analyse l'ensemble des textes qui concernent la femme, force est de constater qu'elle a un statut qui ne correspond absolument pas à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de l'égalité entre les sexes. Dans le judaïsme, la femme est dépendante de son père, qui en est légalement responsable, jusqu'au moment de la transaction qui accompagne le mariage, la ketouba. Et elle passe alors, à ce moment-là, sous la tutelle de son mari. La femme est donc, au sens juridique du terme, incapable, au même titre qu'un enfant mineur, comme vous venez de, de nous le dire, mais c'est quoi cette incapacité ?
Mais les rabbins traditionnalistes sont un peu gênés par cette position de la femme qui n'a pas de rôle, même dans la cérémonie du mariage. La Ketouba, c'est un excellent exemple, parce que ils se rendent bien compte que ça ne correspond pas à la réalité de notre manière de vivre, qu'il faut que la femme puisse s'exprimer, puisse avoir un rôle, même si ça doit être dans le foyer, il faut qu'elle ait un rôle actif et pas uniquement un rôle de dépendance. Et la manière de parler, le vocabulaire, le rôle qui était dévolu à la femme et surtout son absence de parole, tel qu'on le trouve dans la Ketouba. Il faut bien voir que dans un mariage juif, la femme n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Si elle ne s'oppose pas au mariage, le mariage est légal. Je pense que nous devons repenser cette question-là, y compris par exemple aussi pour des questions comme le divorce. Il faut savoir que au 5e siècle avant notre ère, dans l'Antiquité, la Ketouba existait déjà dans certaines communautés. La Ketouba était au départ, elle a été rendue obligatoire par les rabbins du Talmud pour protéger la femme en cas de divorce, afin que les hommes ne puissent pas les répudier de manière arbitraire, sans que ça leur coûte quelque chose. Mais au 5e siècle, dans l'île Éléphantine, en Égypte, il y avait une garnison juive, et dans cette garnison, on a trouvé des vieilles ketubot. Et dans plusieurs de ces vieilles ketubot, on trouve la mention que la femme peut elle-même prendre l'initiative du divorce.
C'est étonnant, c'est d'une modernité absolue.
Absolument.
Rabbi Neger, la halakha, donc l'ensemble de la législation juive, impose un certain nombre d'obligations rituelles à accomplir, dont on peut se libérer en confiant l'exécution à un tiers. Expliquez-nous un petit peu le rapport qu'il y a entre ceci et la problématique de la femme.
Ok, alors on a un certain nombre de rites que l'on doit accomplir, un certain nombre de choses que l'on doit faire. Un père doit circoncire son fils, on doit réciter le schéma le matin, on doit étudier la Torah, on doit faire un certain nombre de choses, on doit dire un certain nombre de brachot. On est obligé, chayav, nous avons l'obligation de faire quelque chose. Mais dans certains cas, on n'a pas forcément les compétences pour réaliser cette chose, ou quand il s'agit d'une mitzvah publique, on n'est pas dans la possibilité de tous le faire ensemble, donc on va désigner ce qu'on appelle un shaliach tzibur. Shaliach tzibur, c'est le délégué de la communauté pour réaliser l'action au nom de tout le monde. Un exemple très courant de ça, c'est la lecture dans la Torah. On devrait tous étudier la Torah, et on désigne une personne qui va formellement réaliser cette action pour l'ensemble de la communauté, qui va lire dans la Torah. Et une fois que ce mandataire l'a fait, alors la communauté Yatsa, elle est libérée de son obligation. La question maintenant est de savoir quels sont les critères pour que quelqu'un puisse libérer la communauté. Eh bien, il faut deux choses. Il faut que cette personne soit évidemment compétente pour réaliser l'action, au sens pratique, d'avoir le don ou les connaissances nécessaires pour le faire, mais il faut également que cette personne soit une des personnes chayav obligée de réaliser cette action pour elle-même.
Qu'elle soit habilitée pour elle-même au départ,
qu'elle soit
en fait
obligée pour elle-même. Quelqu'un qui ne serait pas dans l'obligation de réaliser cette mitzvah ne peut pas libérer la communauté de cette mitzvah. Or, on va y venir très rapidement, les femmes dans le Talmud et dans la tradition sont libres, sont exemptées de toutes les mitzvot positives liées au temps, ce qui les rend inadéquates pour être mandataires pour la plupart de ces mitzvot.
Oui, mais exemptées, ça veut dire que si elles ont envie, enfin en langage français, exemptées, ça veut dire que si elles ont envie, elles peuvent.
En théorie, elles devraient pouvoir. C'est par exemple ce qu'on peut discuter pour l'exemple des téphilines.
Les téphilines, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, expliquez-nous.
Les téphilines, ce sont les petits étuis en cuir dans lesquels il y a des textes de la Torah et que nous mettons le matin, un sur le bras et un sur la tête, un pour représenter l'action et la réflexion et l'autre pour représenter l'action pratique dans ce monde. Les femmes, puisqu'il s'agit de quelque chose qu'on doit faire le matin, donc à un moment précis, et que c'est quelque chose de positif, on doit faire quelque chose. Les femmes sont exemptées, ce qui ne veut pas dire en théorie qu'il leur soit interdit. La légende veut que les filles de Rachi aient mis les téphilines. et que certaines, on sait avec certitude que certaines femmes au Moyen-Âge mettaient les téphilines, mais elles n'avaient pas l'obligation de le faire. Donc maintenant, si une femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, mais seulement la possibilité, alors elle ne peut pas libérer la communauté de son obligation de lire la Torah. Et puis l'autre point important, c'est que cette exemption est petit à petit, pour des raisons sociales et d'usage, devenue une interdiction, histoire de maintenir les femmes à leur place. Les rabbins ne souhaitaient pas que les femmes se mettent en avant en réalisant certaines mitzvot qui étaient traditionnellement réservées aux hommes.
Eh bien, écoutez, je vous propose un petit intermède musical. Nous allons commencer par écouter la voix de Debbie Friedman. Rabbi, pouvez-vous me dire deux, trois petits mots sur Debbie Friedman?
Debbie Friedman est une, était, Zichrona Levracha, était une chazanite américaine qui a révolutionné la musique synagogale principalement aux États-Unis, mais aujourd'hui dans le monde et en particulier également en Israël, dans beaucoup de communautés, parce qu'elle a apporté un élément plus populaire et plus folk à la musique dans la synagogue. Et elle a également été la première à mélanger des paroles en hébreu et en anglais, en vernaculaire, histoire de donner un accès au texte à ceux qui priaient ou ceux qui chantaient. Sont parfois des textes liturgiques, ce sont plutôt des textes de chant, très souvent.
Eh bien, nous allons donc écouter cette très jolie voix qui appartient à Debbie Friedman. Rabbi Neger, vous avez évoqué il y a quelques instants les obligations rituelles accomplies dont on peut se libérer en confiant l'exécution à un tiers. Et vous nous citiez l'exemple de la montée à la Torah, de la lecture de la Torah. En ce qui concerne la femme, il y a un problème ou pas à ce qu'elle monte à la Torah?
Il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un problème. En fait, les histoires d'impureté, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, parce que l'homme a aussi des périodes de sa vie ou des journées où il est impur, tout le monde peut monter à la Torah parce que la Torah est par nature impossible à rendre impure par le contact de quelqu'un. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les femmes peuvent monter à la Torah pour d'autres raisons ? Et le Talmud répond que oui, les femmes peuvent monter à la Torah, ainsi que même les mineurs, mais ou un esclave, qui sont régulièrement associés à la femme, mais pour l'honneur de la communauté, on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour l'honneur de la communauté ? Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est complètement enraciné dans la perception sociale du rôle de la femme, ou du rôle de l'esclave, ou du rôle du mineur. Personne n'a envie de voir un gamin de 10 ans monter à la Torah et nous montrer que nous, on n'est pas capable de lire dedans. Eh bien, dans une société qui était plus patriarcale, on n'avait pas spécialement envie d'avoir une femme qui en remontrait aux hommes. À partir du moment où nous vivons dans une société où nous affirmons l'égalité entre les hommes et les femmes, et en particulier dans leurs capacités humaines et intellectuelles, alors il n'y a plus de déshonneur à faire monter une femme à la Torah.
C'est ça. Et vous nous avez aussi parlé des mitzvot liées au temps.
Alors c'est là qu'il y a un très grand paradoxe. Et on a un certain nombre d'incohérences dans le Talmud sur les mitzvot que les femmes peuvent ou doivent faire. Il y a une grande règle générale qui est de dire une mitzvah que l'on doit accomplir à un moment particulier et qui est dans le faire et pas dans le non-faire, alors les femmes en sont exemptes. Ceci étant, les rabbins se rendent très vite compte qu'il y a quelques mitzvot où on ne peut pas éloigner les femmes parce qu'elles ont un sens important. Par exemple, les femmes ont quand même l'obligation de manger de la matzah. On est bien d'accord que c'est quelque chose de positif, je dois faire quelque chose, et ça a lieu uniquement pendant Pessah. Donc c'est lié au temps.
Pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, la matzah, donc c'est le pain...
Le pain non levé que nous mangeons pendant la Pâque. Les femmes sont exemptées de lire dans la Torah, d'étudier la Torah, mais elles ne sont pas exemptées d'écouter ou de lire. Alors là, on peut l'entendre comme on veut, si je peux me permettre, la Megillah d'Esther. Et ça reste une question ouverte dans certains milieux orthodoxes aujourd'hui. Est-ce que les femmes doivent participer ou est-ce que les femmes peuvent participer ? Est-ce que les femmes même pourraient lire la Megillah d'Esther dans un contexte public, puisque à ce moment-là, si elles en ont l'obligation, elles pourraient être mandataires ? On a également la question du kiddush pour le Shabbat. Les femmes ont l'obligation, normalement, de réciter le kiddush. Ceci étant, l'usage a fait quelque chose d'assez surprenant. Il a éloigné les femmes de la récitation du kiddush, qui est devenue la prérogative masculine, et quelque chose dont elles n'avaient pas l'obligation, parce que les hommes ont également cette obligation, est devenu le geste traditionnel réservé aux femmes, c'est l'allumage des bougies. Finalement, la mitzvah la plus emblématique du rôle des femmes dans le monde traditionnel, qui est l'allumage des bougies, n'est pas quelque chose dont elles ont l'obligation, mais quelque chose dont les hommes, ou au moins tous les juifs, ont l'obligation.
C'est ça. En fait, tout cela est toujours lié au même départ, qui est l'incapacité juridique, entre guillemets, qu'a la femme à accomplir certaines obligations religieuses. Un certain nombre de dispositions halakhiques fixent le cas de l'acquisition ou de la perte de la capacité légale, s'entend, mais c'est une acquisition, une perte légale qui ne concerne en fait que les hommes.
Absolument. On a par exemple, j'ai parlé des esclaves ou j'ai parlé des mineurs. On a tous les hommes ont été mineurs à une époque de leur vie, donc il y a une époque où ils ne peuvent pas faire les mitzvot au nom des autres, et puis le jour de la bar mitzvah, eh bien finalement, ils célèbrent l'acquisition de cette capacité d'exercer les mitzvot au nom de la communauté. Et c'est ce qu'ils font en montant à la Torah, ils vont réaliser une mitzvah au nom de toute la communauté. Mais on a d'autres cas, par exemple, pendant Shiva, pendant la semaine de deuil après la perte d'un proche, on est exempté, un peu comme une femme d'un certain nombre de ces obligations et de la réalisation de certaines mitzvot positives liées au temps. Et donc, on n'a plus l'obligation de réciter le schéma, on n'a plus l'obligation d'étudier la Torah. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un qui est en deuil ne peut pas aller lire à la Torah, ne peut pas monter à la Torah. Il y a même aussi des décisionnaires halakhiques qui ont posé qu'un homme ivre ne peut pas monter à la Torah ou agir en tant que Sheliar Tzibur, délégué de la communauté, pour mener la prière, parce que son état le rend temporairement incapable. Un esclave, lui aussi, a une incapacité qui est d'une certaine manière temporaire, parce que l'esclave peut finir par être affranchi. Donc finalement, il y a là toujours cette capacité sociale, voire pathologique, de changer de situation.
Mais pour la femme, donc, il n'y a pas de modification possible, sauf que, sauf erreur de ma part, par exemple, il y a un minimum d'acquisition de capacité juridique chez la femme qui est veuve, par exemple.
Alors, effectivement, il y a une zone grise quand la femme sort de la tutelle d'un homme d'une manière naturelle, je dirais pas par rébellion. Et à partir du moment où elle devient veuve, où elle serait divorcée, elle acquiert une certaine autonomie juridique. Alors, les rabbins du Talmud vont laisser une certaine autonomie dans le sens social, commercial, civil, mais ils ne vont pas donner à la femme cette autonomie dans le domaine religieux. Un exemple, une femme qui aurait créé des dommages matériels à quelqu'un n'est pas responsable de ses dommages matériels. Elle ne doit pas rembourser les dégâts qu'elle a faits. C'est à son mari de le faire. Mais le jour où elle divorce, elle devient responsable des dégâts matériels qu'elle a causés et c'est à elle de rembourser.
Et quitte si elle se remarie ?
Si elle se remarie, elle repasse sous la tutelle de son nouveau mari.
Et c'est le deuxième mari qui devra
payer éventuellement pour les...
Rabbi, est-ce que la femme est, en regard de la religion juive, condamnée à perpétuité au statut d'enfant mineur ?
C'est peut-être la plus importante des questions. Je ne pense pas que la réponse soit absolue, parce qu'elle dépend non pas de quelque chose décrit dans la Torah, mais de la manière dont on a envie de l'interpréter, de la manière dont les décisionnaires halakhiques ont envie de faire vivre la femme dans leur société. Vous savez, avec les juifs, c'est très difficile d'avoir une opinion unique, et même de limiter à une ou deux opinions. Il y a toujours un grand nombre d'opinions variées, contradictoires, et je crois que la réponse, elle va dépendre de la famille religieuse ou politique à laquelle on appartient. D'un côté, on a les ultra-orthodoxes qui se radicalisent de plus en plus. Et je pense que de ce côté-là, effectivement, on a du mal à imaginer que la femme sorte de ce cadre. Elle restera une mineure légale de manière permanente. Mais on n'a pas que les juifs libéraux qui se posent la question de la place de la femme dans la synagogue. On a aux États-Unis et en Israël des tendances comme les modernes orthodoxes qui cherchent réellement à renouveler la place de la femme dans la synagogue. Et on a même ces dernières années vu les premières, je dirais pas rabbins femmes, bien qu'elles aient exactement suivi le même cursus que leurs collègues masculins, qu'elles aient les mêmes compétences, mais dans le monde moderne orthodoxe, parce qu'ils se disent orthodoxes, ils ont appelé ça une mara, c'est-à-dire plutôt un professeur ou une guide spirituelle, et ils sont coincés par cette question là, à partir du moment où la femme est incapable de faire certaines choses, c'est pas parce qu'elle en aurait les capacités intellectuelles que ça réglerait le problème de comment elle peut se placer par rapport à la communauté. Donc finalement, il y a même chez les orthodoxes des gens qui se battent pour essayer de trouver une solution par rapport à cette difficulté qui vient de la tradition. Il est évident que des mouvements plus progressistes, eux, ont dit non, nous devons réformer la position de la femme, nous devons accepter que ce qui était vrai à l'époque du Talmud, ce qui était vrai au Moyen-Âge, n'est peut-être plus vrai au XXIe siècle, et les femmes sont traitées exactement comme les hommes. C'est la moitié de la population juive quand même.
Eh bien, nous allons terminer cette première partie de notre émission avec Suzanne Colline.
Oh,
le rabbin Neger vient d'apporter un éclairage fort intéressant sur la femme par rapport au judaïsme. À l'occasion de chaque émission, vous nous proposerez une pratique du jour. Celle-ci ne concernera pas que les femmes, j'imagine. Expliquez-nous le sens d'une telle rubrique.
Les juifs du XXIe siècle sont issus de la Shoah. Les gens de ma génération, dans leur toute grande majorité, n'ont pas connu leurs grands-parents. Or, les grands-parents sont ceux qui, de tout temps et dans toutes les cultures, sont les principaux transmetteurs de la tradition. D'autre part, beaucoup de survivants de la Shoah ont choisi de ne pas transmettre les gestes du judaïsme, soit par peur du lendemain, espérant peut-être protéger leurs enfants, soit en réaction à ce qui leur est apparu comme l'absence de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous de juger, bien loin de là, après un tel traumatisme, chacun essaye de reprendre le chemin de la vie comme il peut. Mais nous ne pouvons que constater. Nombre de juifs d'aujourd'hui ne pratiquent plus. Pas toujours par volonté, mais parce que les gestes, et puis encore le sens, ont été perdus. Nous nous proposons donc de les redécouvrir ensemble. Nous vous inviterons d'émission en émission à retrouver ceci, en comprendre le sens, et pourquoi pas démarrer l'une ou l'autre pratique qui vous aura particulièrement parlé, cela tout en douceur et dans la joie.
Vous parlez de joie, Gaël, dans la pratique, mais la pratique, ce n'est pas surtout quelque chose de très contraignant.
La semaine passée, la paracha que nous étudions et que nous commentions était Terouma, qui signifie l'offrande. La semaine précédente, c'était Mishpatim, les lois. Comment ne pas voir un lien entre ces deux parachotes ? La loi, et j'y associe les pratiques qui en découlent, perçues non comme une charge, non comme des interdits, comme des limitations, mais comme une offrande. Un cadeau à étudier pour en comprendre le sens, mais aussi à mettre en pratique, sinon cela n'aurait précisément pas de sens. Et cela pour en faire la clé d'une liberté vraie, responsable et constructive. Et quand quelque chose est vécu comme un cadeau et non comme une contrainte, la joie apparaît. La joie qui, rappelons-le, est une mitzvah, un devoir. Mais je peux vous l'assurer, et j'espère vous le montrer, notre pratique du judaïsme, loin d'être vécue comme une obligation, est avant tout une joie.
Alors le sens, Rabbi, je crois que c'est une notion, un concept qui est extrêmement important dans le judaïsme libéral. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ?
Pas uniquement dans le judaïsme libéral, je crois qu'on a toujours eu cette question dès la réponse qui est faite par le peuple d'Israël à Dieu au moment de la révélation du Sinaï, qui est Naase Venishma. On peut très bien comprendre, comme c'est effectivement la majorité des penseurs orthodoxes aujourd'hui, que c'est Naase, nous ferons, et puis par le fait de faire, nous comprendrons. Mais il y en a d'autres qui pensent que Naase Venishma, c'est nous ferons et nous comprendrons de manière concomitante, ou parfois dans l'autre sens. Finalement, les deux sont la clé du fonctionnement du judaïsme. Le judaïsme n'est pas tellement une religion de la croyance, c'est une religion du faire. Et la pédagogie du judaïsme a lieu dans le faire, dans l'action, dans le fait de réaliser les mitzvot. Et certaines de ces mitzvot sont d'ordre rituel, certaines de ces mitzvot sont d'ordre éthique. La plupart des mitzvot rituels sont là pour nous guider, pour nous apprendre, pour nous amener notre main, notre esprit à penser de manière à pouvoir réaliser les mitzvot éthiques. Et donc peut-être que là aussi, il y a quelque chose dans le Naase Venishma, nous ferons les rites et nous apprendrons le sens même des mitzvot éthiques et donc nous en viendrons à pouvoir les mettre en œuvre. C'est beaucoup plus facile de mesurer si j'ai mis les téphilines ce matin ou si j'ai que de dire si j'ai pu parler correctement à mon voisin. Pourtant, les deux sont des mitzvot. Je dois mettre les téphilines et je dois être bien me comporter par rapport à mon prochain. Donc les deux sont liés Et peut-être que on doit, dans ce geste pédagogique qu'est l'action, apprendre à faire les choses.
Est-ce que vous pensez que dans notre monde contemporain, on puisse mettre à pied d'égalité le rite religieux, je dirais, et l'action basée sur l'éthique qu'on apprend, notamment en étudiant, notamment en utilisant les rites comme outils?
Alors peut-être que les rites ont besoin de changer, peut-être que notre manière de faire est moins enracinée dans des gestes rituels, mais il ne faut pas oublier que les mitzvot éthiques sont les plus importantes. Et le judaïsme libéral, dans ce sens-là, insiste sur les mitzvot éthiques, sur le tikkun olam, sur la relation à l'autre, et les autres ne sont que des rappels, de la même manière que les tzitzit sont là pour nous rappeler tous les commandements.
Gaël Rabinager nous a parlé tout à l'heure de l'allumage des bougies comme un des exemples traditionnellement dévolus aux femmes.
Non seulement l'allumage des bougies, les femmes ont l'obligation de le faire, mais les hommes ont également l'obligation de le faire. Mais surtout, l'allumage des bougies, c'est un moment qui marque le seuil du Shabbat. C'est-à-dire que c'est le moment qui permet de construire le Shabbat. Ça paraît un peu surprenant que le Shabbat, qui est le moment du repos, on doive le préparer. Mais finalement, c'est ce qui donne tout son sens au Shabbat. En déclarant que nous commençons le Shabbat par un rite extrêmement simple, qui est disponible pour tout le monde, que même les enfants dans les familles font, allumer les bougies, alors nous donnons tout son sens en Shabbat en déclarant l'ouverture, comme on déclare l'ouverture des Jeux Olympiques ces jours-ci.
En fait, c'est peut-être une bonne idée de vous proposer de commencer par ce geste merveilleux qui, avec le temps, vous donnera beaucoup de joie. Et l'idée, c'est que le vendredi, avant de manger, vous vous réunissiez, parents, enfants, peut-être grands-parents, et vous allumiez les bougies de Shabbat. Alors, à ce propos, je pense que c'est vraiment, même pour ceux qui se sont, avec le temps, éloignés de certaines pratiques, c'est une des pratiques qui est restée, qui a traversé le temps. Et je me souviens d'une anecdote. Quelqu'un était venu dans notre synagogue il y a bien longtemps parce qu'il voulait se convertir et il était d'origine marane. Il avait l'impression que certaines choses étaient liées au judaïsme, il se sentait lié au judaïsme, il ne savait pas trop pourquoi. Et à un moment, il m'a expliqué que tous les vendredis soirs, sa maman allumait une bougie. Et il s'était toujours demandé pourquoi une bougie. Alors évidemment, pour les maranes, ils ne pouvaient pas allumer deux bougies parce qu'on aurait su qu'ils pratiquaient le judaïsme. Alors ils en allumaient une pour quand même marquer le coup, mais qu'ils ne soient pas poursuivis comme mauvais chrétiens. Et donc, à travers les siècles, depuis 5 siècles, dans sa famille, les mères continuaient d'allumer une bougie. Et je pense que c'est vraiment un petit geste qui, en même temps qu'il est la construction de ce moment tout à fait fondamental qu'est le Shabbat, et nous en parlerons dans quelques semaines d'ailleurs, eh bien de commencer pour vous aussi, amis auditeurs, à peut-être construire cette nouvelle forme de pratique du judaïsme en allumant votre bougie le vendredi soir.
While we're here in Hebrew school, we're going to have some fun and sing the Hebrew alphabet, a song for it's going to be quite simple, 'cause all you'll have to do is sing the letters after me, then I'll sing after you. Aleph, bet, vet,
Aleph, bet, vet,
Gimel, dalet, hey,
Gimel, dalet, hey,
Vav, zayin, chet, tet,
Vav, zayin, chet, tet,
Yud, kaf,
Sous-titrage Société Radio-Canada.
venons d'entendre à nouveau la belle voix de Debbie Friedman dans une charmante comptine sur le babubi de l'alphabet. Gaël, il en sera également question, également très souvent dans l'émission, des lettres hébraïques.
Oui. Eh bien, il y a 7 ans, j'ai eu la chance extraordinaire de faire un stage de calligraphie et de symbolique des lettres hébraïques avec Franck Laloux, qui est un écrivain et calligraphe dont la notoriété ne cesse de s'amplifier dans le monde. Et ce fut pour moi une découverte de tout ce que cet alphabet offre comme ressource. Pourquoi on peut le nommer alphabet sacré ? Et en quoi il peut même être un guide sur ce chemin qu'est notre vie ? Et depuis, j'ai continué les stages, l'étude, et j'essaierai de vous faire partager en fait ce qu'il m'a appris et ce que j'ai continué d'étudier depuis, parce que comment ne pas partager un émerveillement et une joie quand on l'a dans l'étude. En ce jour où nous parlons de la femme, il m'a semblé bien à propos d'aborder la lettre même. Maman, Ima, Mode, Mama, Ma, Mommy, on peut continuer longtemps dans quasi toutes les langues. Le M symbolise la mère, M-E-R-E. Mais aussi la mer, M-E-R. Car la mer est faite d'eau et l'eau c'est Maïm en hébreu. L'eau, dimension féminine par excellence.
Alors la forme du M est arrondie avec une ouverture vers le bas. Ça signifie forcément quelque chose.
Difficile d'expliquer le visuel à la radio, mais je vais essayer. L'alphabet hébraïque, qu'on appellerait à tort imprimé, s'appelle en réalité l'alphabet carré. Parce que presque toutes ces lettres s'inscrivent dans un carré et sont faites de lignes qui longent les côtés de celui-ci. Le même, par contre, est tout en rondeur, comme vous l'avez dit, je dirais même sensuel. En début et milieu de mot, il est ouvert vers le bas. En fin de mot, le même qu'on appelle final ou sophit en hébreu est fermé. La tradition voit le même final fermé comme une matrice durant la grossesse, le fœtus en gestation, la vie intérieure, ésotérique, et le même ouvert comme le ventre de la mère, la femme qui va donner naissance à la vie. Il représente alors le monde exotérique, éclairé de la conscience, le dedans et le dehors.
Y a-t-il autre chose qui interpelle dans la lettre même ?
Le même, c'est aussi la lettre des questions. C'est par elle que commencent les interrogatifs « mi », « qui » et « ma », « quoi ». Quoi, le ressort de toute intelligence. Et l'ama, pourquoi ? Comme si Maïm, le Maïm de la lettre, qui est ici le liquide amniotique, nous immergeait dans un flux de questions, de notre conception jusqu'à notre mort, du ventre de la mère jusqu'au sein de la terre. En effet, le nom même d'Adam, Adam, vient de Adama, la terre, qui contient le ma, le quoi fondamental.
Il est la vie, le chaim, enfin chaim. On entend le même ici également en fin de mot. Cela, j'imagine, peut aussi nous suggérer quelque chose.
Chaim, la vie, est toujours au pluriel en hébreu. Im. Le même final qui le termine nous marque ce pluriel. Et il évoque la gestation, donc l'espoir des générations qui se succèdent. Et pour cela, pour cette gestation, nous avons le temps. Parce que la valeur numérique du même est 40. Comme les 40 ans dans le désert, les 40 jours que Moïse mit pour aller chercher les tables de la loi, les 40 jours que Noé prit dans l'arche pour reprendre enfin un pied sur terre et construire une nouvelle humanité.
Bien voilà, il me semble que la boucle semble bouclée avec cette première lettre qu'on évoque aujourd'hui, la lettre même, la lettre même de la femme féconde, de l'eau nécessaire à toute forme de vie sur terre, du cycle de la vie, en somme. Tout ceci nous conduit finalement à songer aux générations qui se suivent, se succèdent, et à l'importance de la transmission si chère dans nos cœurs. Je vous propose un nouveau petit intermède musical en compagnie de Deborah Jacobson. Passer à l'agenda communautaire de la synagogue Beth Hillel. Ce vendredi 7 février, comme chaque premier vendredi du mois, l'office de Kabbalat Shabbat familial, le Dov Hador, débutera à 18h30. Ce Shabbat 8 février sera celui de la bar mitzvah du jeune Alexis. D'ores et déjà, un chaleureux Mazel Tov à Alexis et à toute sa famille. Le Shabbat 15 février, après l'office, se tiendra le cercle d'études de la paracha de la semaine. Le mardi 18 février, de 15 à 17h, réunion conviviale du Café Klatch des seniors. Comme tous les troisièmes mardis du mois, on y goûtera et discutera autour du thème du jour. Rabbi Neger, un petit mot à propos de cet office de Kabbalat Shabbat familial, donc ce vendredi 7 février prochain.
Les Dor Vador de génération en génération, l'idée c'est d'amener toutes les générations et pas uniquement les adultes dans la synagogue, et donc que les parents, les grands-parents et les enfants et les petits-enfants soient tous ensemble pour célébrer l'accueil de Shabbat. Et donc on a un office de Shabbat avec un format un petit peu différent de l'office traditionnel, où on a ajouté des chants, de la musique et une participation réelle des enfants dans l'activité, dans la célébration de l'accueil du Shabbat. Et ça remporte un certain succès à la fois auprès des enfants et auprès des grands.
Gaël, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose à propos de l'office Le Dor Vador, donc l'office familial de Kabbalat Shabbat?
Oui, en fait, je trouve que c'est vraiment une initiative extraordinaire qui rencontre un beau succès dans notre synagogue. et on y voit notamment les enfants relativement petits jouer très calmement dans un coin, puis tout à coup ils s'arrêtent, il y a une prière qu'ils connaissent comme le Sim Shalom. Alors ils arrivent tous près du rabbin et ils chantent avec nous et avec le rabbin, ou bien quand c'est l'allumage des bougies, ils sont là. Il y a plusieurs moments où, au milieu des jeux, en fait, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le coup, mais ils sont tout à fait présents parce qu'ils se retournent, ils se lèvent. Ah, je connais ça. Et en fait, c'est un côté merveilleux. C'est de venir dans une, leur apprendre à venir dans une synagogue, à ne pas être obligé de rester sans bouger près des parents, à pouvoir vivre une liberté. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont quand même très présents et à participer. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir dans notre synagogue.
Eh bien, voilà, je recommande vivement à nos amis auditeurs qui ont des jeunes enfants de venir nous rejoindre donc ce vendredi prochain à 18h30. Rabbi, le Shabbat 15 février, donc après l'office, se tiendra le sac d'études de la paracha de la semaine. Pouvez nous en dire aussi quelques petits mots?
Oui, là aussi, il s'agit de faire participer la communauté. Il y a un adage qu'on trouve dans le Pirkei Avot qui dit « Aseh lecha rav, ukene lecha chaver ». Aseh lecha rav, fais-toi un maître, ukene lecha chaver et achète-toi, acquiert un compagnon. Alors, cette fois-ci, on a décidé que le rav, il restait dans son coin, c'était pas son rôle, et que ce sont que des compagnons, des chaverim, des amis, qui allaient étudier ensemble, et c'est chacun qui apporte le fruit de son travail sur la paracha de la semaine, et nous partageons tous ensemble.
Merci à vous, Rabbi Neger, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de la femme. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en vous rendant sur le site www.bethilel.org. Bethilel en deux mots séparés par un trait d'union. Au nom de toute l'équipe de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Bethilel, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et vous dis à dans 15 jours.